Bonjour à tous, ce matin, enfin plutôt ce soir, excusez-moi mais je suis en train d'enregistrer le message et c'est le matin que je le fais. Je voudrais vous lire un passage dans Romains chapitre 1 verset 18. Romains 1 verset 18, voilà ce qui est écrit. Dieu manifeste sa colère du haut du ciel aux hommes impies qui, par leur perversité, étouffent la vérité et la retiennent captive de leur méchanceté. En effet, nul n'est dépourvu de la notion du vrai Dieu. Tous les hommes ont une connaissance innée de lui, lui-même l'ayant placé avec netteté dans leur cœur. Depuis la création, les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes de ses perfections invisibles. Quiconque sait regarder peut y discerner clairement sa divinité et sa puissance. Aussi, depuis les temps anciens, les hommes, qui ont sous leurs yeux la terre et le ciel et tout ce que Dieu a créé, ont connu son existence et son pouvoir éternel. Ils n'ont donc aucune excuse de dire qu'ils ne savent pas s'il y a un Dieu. Ils ont eu conscience de Dieu, ils ont su qu'il existait, mais ils ont refusé de l'adorer, lui le seul digne d'adoration, ou même de le remercier pour ses dons. Alors ils se sont perdus dans des raisonnements insensés et des spéculations futiles. À force de sonder le néant et de discuter dans le vide, leur pensée s'est égarée, leur intelligence s'est dégradée, leur esprit borné est devenu la proie des ténèbres. Plus ils se prétendent intelligents, plus ils s'enfoncent dans leur folie, cachant leur ignorance sous les grands mots de science ou de philosophie. Au lieu d'adorer le Dieu impérissable et glorieux, ils se sont fabriqués des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. Voilà l'objet de leur adoration. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à eux-mêmes pour être le jouet des passions et des convoitises de leur cœur. Il les a laissés s'enliser dans l'immoralité de toute sorte que ils ont avili leur propre corps. Cela leur est arrivé parce qu'ils ont délibérément troqué ce qu'ils savaient être la vérité sur Dieu contre le mensonge. Ils ont choisi d'offrir leur hommage et leur culte à des divinités de leur invention. Ils ont servi la créature au lieu du Créateur, seul digne de louange et d'adoration dans toute l'éternité. Oui, cela est vrai. Voilà, ça c'est la réponse à la question que je pose en début, en titre de cette prédication. Mais que fait Dieu ? Ben, il vous a abandonné. Il a abandonné le monde. Il n'a pas abandonné ceux qui se confient en lui et qui mettent en pratique sa parole. Mais le reste du monde, il a abandonné. Il laisse faire. Dieu est notre Dieu suprême. Mais il y a des gens qui croient en Dieu sans le connaître. Ils se sont inventés des dieux. Depuis l'aube des temps, les humains pressentent qu'il y a un Dieu qui existe. Du moins qu'il existe une force surnaturelle. Il y a quelque chose au-dessus de nous. Et ils lui ont donné des noms, des noms les plus variés, Votan, Vishnu, Ra, Yahvé, Adonai, Allah, Jéhovah, Zeus, Helios, Aton, Manitou, tout ce que vous voulez, et des centaines d'autres. Il y a même des adorateurs du nombril à Paris, je ne sais pas si vous le savez, des adorateurs du nombril. J'ai reçu chez moi le président des adorateurs du nombril. Non mais c'est à mourir de rire, Bon, enfin bon. En vérité, il n'y a qu'un Dieu, et ce Dieu unique est Jésus, qui est venu parmi nous vivre dans un corps semblable au nôtre. Et il nous a révélé le vrai nom de Dieu. Alors on va lire dans Jean chapitre 17, verset 6. Jean 17, verset 6. Voilà ce qui est dit. Je t'ai fait connaître, c'est Jésus qui parle à son Père, et il dit, je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, Il les a donnés à qui? À Dieu fait homme, c'est-à-dire à Dieu limité dans un corps d'homme. Il n'y a pas deux ou trois dieux, il y a un seul Dieu. Mais quand Dieu s'est limité à devenir un homme, il était parfaitement homme, donc il ne savait pas tout, il était même étonné des fois, etc. Donc, et alors, il priait Dieu, Jésus priait Dieu. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné tes paroles que tu m'as données et ils les ont acceptées. Et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour tout le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Jésus savait que ceux qui ne sont pas de Dieu, ben, Dieu ne s'en occupe pas, hein, il les laisse. Il le savait. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux. Ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Lorsque j'étais avec eux dans ce monde, je les gardais en ton nom, j'ai protégé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Il y avait eu des prophéties sur Judas, disant qu'il allait trahir, et même la somme qu'il allait recevoir, tout ça c'est dans l'Ancien Testament. Maintenant je vais vers toi, et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés moi aussi dans le monde. Moi aussi dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Et au verset 26, il dit, « Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. » Jésus nous a fait connaître le nom de Dieu. Dans l'Ancien Testament, ils ne connaissaient pas le nom de Dieu. Jésus est venu révéler le nom de Dieu. C'est Jésus en français, ou Yeshua. Quand les disciples ont reçu l'ordre de baptiser, les disciples ont entendu Jésus dire « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Et le mot « au nom », c'est au singulier, ça veut dire qu'il n'y a qu'un nom. Et quand on lit dans la Bible, après, dans les Actes des Apôtres et un peu partout, chaque fois qu'il y a un baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas au nom d'une Sainte Trinité qui a été inventée par l'Église catholique. Bon, je ne veux pas revenir là-dessus, mais voilà. En vérité, il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu. Pas 150 000, pas trois, non. Est-ce que vous avez bien compris? Il n'y a qu'un seul Dieu, et ce Dieu est venu parmi nous en tant qu'homme limité par la condition humaine. Par exemple, il ne savait pas tout. Il dit « Nul ne connaît ni le jour ni l'heure ». Claude Inierski, lui, connaît, mais Jésus, il ne connaissait pas. Claude Inierski, il est mieux que Jésus, vous voyez, il connaît, lui. Enfin, il s'est déjà trompé une bonne dizaine de fois, mais enfin bon. Il y a encore des gens pour le suivre, hein. Il ne savait pas tout, il pouvait être étonné. Souvent, on voit qu'il est étonné. Il avait besoin de dormir, il avait besoin de manger, etc. Et en même temps, il était toujours... Dieu était toujours omniprésent, c'est-à-dire présent partout. C'est-à-dire que Jésus, homme, était rempli de la plénitude de Dieu, oui, mais ça n'empêchait pas que Dieu était partout ailleurs. Il était aussi sur la planète Mars, partout dans tout l'univers. Il remplit tout en tous. Il est omniprésent, il est présent partout. Jésus, Dieu fait chair, avait besoin de prier son Père qui était omniprésent et omniscient. Parce que Jésus n'était pas omniscient, il ne savait pas tout. Pour savoir ce qu'il avait à faire chaque jour, eh bien, il était obligé de se retirer et de prier. On va lire dans Jean 12, chapitre... voyons. Jean 12, je croyais que je l'avais noté, puis je ne l'ai pas noté. Mais je vais le retrouver. Jean 12, chapitre 12, verset 49. Ah si, je l'ai là. Voilà ce qu'il dit. Car je n'ai point parlé de mon propre chef, c'est Jésus qui dit, je ne parle pas de moi-même, c'est pas par moi-même, c'est, ça ne vient pas de moi, c'est pas moi l'homme que vous voyez qui parle, c'est le Père lui-même, c'est-à-dire le Père en lui. Donc je suis l'envoyé, lui en tant qu'homme, il est envoyé par le Père qui est en lui. Et il m'a prescrit ce que j'aurais à dire et comment je devrais le dire. Or, je sais qu'obéir à ce qu'il commande, c'est avoir la vie éternelle. Aussi, lorsque je parle, je dis seulement ce que le Père m'a transmis, et je le dis comme il m'a ordonné de le dire. Voilà, ça c'est ce que Jésus dit. Alors maintenant, comprenne qui pourra. Jésus écoutait le Père, il se retirait, il allait prier, et puis il avait les révélations de ce qu'il avait à faire et à dire dans ses journées. Jean 5, 19 aussi, il dit, Jésus répondit à des reproches qu'on lui faisait en disant, « Je vous assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative, il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Le Fils imite tout ce que fait le Père, parce que le Père aime le Fils et l'initie à tout ce qu'il fait. Il lui donnera même le pouvoir d'accomplir des œuvres plus extraordinaires que celles que vous avez vues jusqu'à présent, et vous en serez stupéfaits. En effet, comme le Père ressuscite les morts et leur donne une nouvelle vie, ainsi le Fils peut lui aussi donner une vie nouvelle à ceux à qui il veut la donner. » Donc, Jésus ne faisait rien de lui-même. Il passait des nuits en prière, des fois il dormait, et puis il se levait très tôt le matin, et puis les disciples le retrouvaient dans un coin en train de prier, et là il avait des visions, il avait des révélations de ce qu'il devait dire, de ce qu'il devait faire, des gens qu'il allait rencontrer. Et son Père omniprésent et omniscient lui donnait des visions, et Jésus ne se trompait pas, parce qu'il faisait que de répéter ce que le Père, ce qu'il avait vu au Père, ce qu'il avait vu faire, ce qu'il avait vu qu'il devait faire. Et le Père, Dieu, en l'homme Jésus, lui révélait ce qu'il devait dire et faire. Voilà. Et il en va de même pour un disciple de Jésus-Christ. C'est là où je veux en venir aujourd'hui. Selon l'enseignement de Jésus, Dieu est en nous par son esprit. Nous portons l'aspect divin et l'aspect humain. Dieu vit en nous. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas une jolie phrase biblique pour vous donner du courage. C'est la vérité. Jésus, Dieu éternel, est venu pour nous montrer comment un homme, comment une femme doit et peut vivre s'il a la foi. Mais, vous avez bien entendu, Jésus ne prie pas pour tout le monde, mais uniquement pour ceux qui sont à lui. On va lire dans Jean 4, 17. Jean 4, 17. Voilà ce qui est dit. Jean, attendez. Dans 1 Jean 4, 17, voilà ce qui est dit. Je vous lis dans la version de la parole vivante, qui est une Bible en français courant, mais très élaborée. 1 Jean 4, 17. Dans cette communion avec lui, L'amour atteint en nous sa perfection, de sorte que nous pouvons envisager avec une confiante assurance la venue du jour du jugement. En effet, nous vivons dans ce monde comme il y a vécu lui-même. Vous vous rendez compte de la puissance de cette parole, de ce que ça signifie? Je lis dans la version seconde pour que vous soyez bien sûr que je ne vous raconte pas des histoires. Et voilà ce qu'il dit. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance au jour du jugement parce que nous sommes dans ce monde tel que lui il est. On est dans ce monde tel que Jésus est. Mon Dieu. Les chrétiens, vous qui m'écoutez maintenant, est-ce que vous croyez ça? Si vous ne croyez pas cela, ben vous n'avez qu'une religion. Vous n'avez pas une vie. Vous savez, parfois, je me lasse de dire et redire les choses. Voyez Job, par exemple. Il avait des problèmes par-dessus la tête. Il a cherché à en parler à ses amis. Et ses amis lui ont dit des choses horribles. Qui ont l'air biblique, hein? Moi, je reçois souvent des commentaires de la part de chrétiens qui ne comprennent rien du tout. Et qui, mais c'est terrible, les amis de Job. Alors, des moments, ça me lasse, ça me fatigue. Je reçois des commentaires terribles de personnes chrétiennes qui croient en Jésus, mais en espèce de Jésus bisounours. Je vous l'ai dit, quand Jésus reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? On va lire 1 Pierre 4:11. 1 Pierre 4:11. Avez-vous reçu le don de parole? Attendez, est-ce que c'est bien ça? Avez-vous reçu le don de parler, annoncer le message de Dieu selon la parole et transmettez aux autres ce qui vient de Dieu? Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire transmettez aux autres. Jésus faisait ça. On a reçu la parole, nous aussi, au travers de la Bible, et on la transmet aux autres. Et c'est ce que je m'efforce de faire. Et des fois, je me lasse parce que je vois pas des grands changements dans la vie des gens. Jésus aussi, des fois, il en avait assez. On va lire dans Marc chapitre 9, verset 19. Attendez, je vais voir dans cette version. Non, c'est dans celle-là, Marc 9, 19. Vous vous rendez compte, pour que Jésus en ait marre, c'est quand même terrible. Eh bien oui, il vivait dans un corps d'homme, hein, comme le mien, comme le vôtre. Alors, Marc 9, 19, il dit, Jésus s'adressa à eux et leur dit, « Race incrédule, combien de temps est-ce que je vais devoir rester avec vous ?» Il avait envie de partir. Jusqu'à quand est-ce que je devrais encore vous supporter? Jusqu'à quand je vais devoir encore vous supporter? Jésus, il avait des moments où il dit pff. Il disait, combien de temps encore devrais-je vous supporter? Est-ce que vous vous rendez compte? Et Jésus a enseigné, guéri les malades, seulement pendant 3 ans et demi. Moi, ça fait depuis 1968 que je fais ça. Et des histoires, et des machins, et des trahisons, et de la bêtise, et de l'incrédulité. Qu'est-ce que j'ai pu en rencontrer? Des amis de Job, par paquet, par wagon. Dans mon dernier livre, là, je parle du fait de comment j'ai eu un cancer à cause d'un stress violent, Je raconte ça pour montrer aux gens qu'il ne faut pas avoir, il ne faut pas se stresser, il faut compter sur Dieu. J'explique ça dans mon bouquin. Et il y a une dame qui m'écrit, oh, je trouve votre livre un peu acide. Je m'attendais à lire un livre d'un homme de Dieu. Ouais. Donc on n'a pas, les hommes de Dieu n'ont pas le droit de parler de leurs souffrances, n'ont pas le droit aussi de se mettre en exemple, de dire, voilà, moi aussi, ça m'arrive d'avoir des souffrances, comme vous. Je sais que vous avez des souffrances, mais moi aussi, j'ai des souffrances. Et voilà comment je me suis sorti des souffrances, et voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. Et cette dame chrétienne m'a écrit, j'ai lu jusqu'à la page 97, après, j'en pouvais plus. Pauvre chou. L'individualisme, l'immobilisme, le fatalisme des gens me fatiguent. Ah là là, il avait envie de retourner à la gloire qu'il avait avant Jésus. Je parlais de ça à mon épouse hier parce qu'on se dit tout. Et elle m'a exhorté, elle m'a conseillé, elle m'a fait du bien. Mais même Moïse était fatigué parfois. Tous les prophètes ont eu leur moment de lassitude. Ah, pour ça, le diable fait bien son travail. Et ses serviteurs aussi, pas que les démons, hein. Les bons chrétiens qui comprennent rien du tout, qui tordent la part. Les amis de Job. Qui tordent la parole de Dieu pour accuser, pour. Par contre, la grande majorité des chrétiens font rien. Oh, ils prient. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson de Jacques Brel. Vous savez, monsieur, chez ces gens-là, on ne parle pas, monsieur, on ne parle pas, on prie. Ben, continuez comme ça, puis vous verrez comment le diable. Et ses serviteurs vont agir. Parce que je vous le dis, ça va chauffer. Mais qui me croit? Oh, maintenant, on voit des images terribles à la télévision, sur Internet, de ce qui se passe. Ce n'est qu'un début. Et puis, vous savez, Jésus n'avait que 120 disciples. Vous lisez ça dans Actes 1, 15, le jour de la Pentecôte, il n'y a que 120 personnes qui sont venues dans la chambre haute pour prier, qui ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. 120 sur tout le peuple d'Israël. Ils étaient où, ceux qui avaient été guéris? Moi, je connais des gens, une femme en particulier, dont le mari est inconverti, et qui était guérie d'un cancer. Ben, elle me fait la gueule maintenant. Ben oui, voilà, c'est comme ça. Parce qu'il y a un truc qui ne lui a pas plu, là, ce que j'ai dit, je ne sais pas quoi, je ne m'en rappelle même plus, c'est une vieille histoire. Où étaient ceux qu'il avait guéris? Où étaient ceux qu'il avait réconfortés? Ceux qu'il avait délivrés de la main assassine des religieux? Où ils étaient, tous ces gens? Ils étaient où? Ah oui, je sais, ils regardaient Hanouna à la télévision. Peuple de Dieu! Réveille-toi. Réveille-toi. Il est encore temps. Réveille-toi. Mets en pratique les paroles de Dieu. Et puis parle du Seigneur. Parle de la part du Seigneur aux gens. Il y a une femme qui m'a parlé une fois, il y a plus de 10 ans, au sujet de personnes qu'elle aime trahir. Elle m'a dit, tu vois, c'est celui-là, 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 celui-là. Eh bien, c'est arrivé. Malheureusement, je ne l'ai pas cru, parce que j'étais naïf. Il faut faire attention quand Dieu parle. Faut pas être naïf, faut pas être bisounours. Il faut avoir les pieds bien sur la terre et le cœur bien dans le ciel. C'est ce que Jésus avait. Mais il disait, combien de temps je vais vous supporter? Combien de temps je vais devoir rester encore là? Voyez. L'épouse, la Bible nous dit dans le dernier verset de l'Apocalypse, l'épouse, l'esprit et l'épouse disent, viens Seigneur Jésus. Moi, c'est mon grand soupir, viens Seigneur Jésus. Je suis lassé, fatigué. Mais je vais continuer jusqu'au bout, comme Jésus l'a continué jusqu'au bout. 10 tombent à ma droite, 100 à ma gauche, je continue mon chemin, mais je vous le dis quand même, je suis fatigué. Voilà, priez pour moi, que Dieu vous bénisse, à bientôt, au revoir.